Bien, nous voilà de retour après une semaine de découverte de d'autres églises. Et pour nos enfants, nous trouvons que c'est quelque chose de très riche, que les enfants découvrent ce qui se passe ailleurs. Après, par la suite, ils auront leur propre construction, leur propre point de vue, parce qu'ils auront leur cheminement dans la vie. C'est pour ça que nous nous absentons le premier dimanche pour découvrir d'autres églises, d'autres frères. Et ainsi, et nous retournons toujours à notre maison qui est ici. C'est chez nous, ici. Je tiens à remercier déjà, je vois il y a des frères, sœurs, voilà, qui sont nouveaux, que je ne connaissais pas. Vous êtes venus la semaine dernière. Nous avons entendu parler de vous, mais beaucoup de bien. Voilà, je vous le dis tout de suite. Eh bien, soyez les bienvenus. Quant à Cécile, c'est chez toi. Je n'ai plus besoin de t'accueillir. Voilà. Tu le sais très bien. Aujourd'hui, nous continuons. Donc, j'oublie personne, donc je regarde parce que je suis doué pour ça. Non. Donc, et bienvenue, Radman. Bien. Eh bien, nous continuons notre voyage à travers l'évangile de Marc. Vous voyez, donc nous avons pris l'habitude, depuis pas mal de temps maintenant, à prendre un livre et l'étudier d'une manière global, avec des limites, bien entendu. Donc, puisque ce que je vais vous dire, c'est subjectif, c'est par rapport à ce que j'ai reçu, ce que j'ai compris. Donc, vous le savez bien. Mais comme vous le savez, nous avons la foi commune. J'ai confiance dans le Seigneur parce qu'il parlera à chacun de nous d'une manière différente. Et peut-être que ce que vous avez reçu, vous, c'est pas ce que j'ai reçu. Et bien, tant mieux. Le Seigneur parle à chacun de nous. Le passage d'aujourd'hui, je vais demander à Herman de voilà, se rapprocher pour le lire. C'est un texte assez long parce qu'en fait, j'estime qu'il faut prendre tout le contexte. Il s'agit en fait de la parabole de la vigne et des vignerons. Mais j'estime que cette parabole doit être lue dans son contexte. C'est pourquoi nous allons lire à partir de Marc 11, verset 27, et on ira jusqu'au chapitre 12, verset 12. Voilà. Donc de 11, 27, Marc 11, 27. Et on va jusqu'au chapitre 12, verset 12.
Il se rendit de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui. Ils lui dirent: Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons pas. Et Jésus leur répondit: Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le battit et le renvoya à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappaient à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'il tuait, puis plusieurs autres qu'il battit ou tuait. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier en disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: Voici l'héritier. Venez, tuons-le. Et l'héritage sera à nous. Et il se saisit de lui, le tuait et le jetait hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittaient et s'en allaient.
Prions. Seigneur notre Dieu, voilà un passage que tu mets devant nous. Ta parole est vie, qu'elle parle à notre cœur, qu'elle s'inscrit par ton esprit et que nous puissions la recevoir comme une nourriture venant de toi. Qu'elle porte des fruits en nous dès l'instant que nous la recevons. Guide toutes choses selon ta volonté. Amen. Voilà un passage que vous connaissez. Nous connaissons cette histoire et nous l'avons lue, relue, et à chaque fois qu'on lit cette histoire, nous avons un nouveau message. Elle parle à différents moments, différentes manières. Nous pouvons la comprendre différemment. C'est que chacun, le Seigneur veut lui parler. Comment le Seigneur peut me parler à travers cette histoire? C'est ça le plus important. Pas de recevoir mon message intellectuel, on va dire, ou voilà, avec des mots que vous recevez parce que je fais un développement. Non, Seigneur, par ton esprit, que veux-tu me dire à travers cette lecture de la parole de Dieu? Il y a beaucoup, vraiment beaucoup à dire. Comme vous voyez, c'est un long message. Mais je fais en sorte qu'on reste dans ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire le fil conducteur, ce que le Seigneur veut nous dire. Et vous avez remarqué, le fil conducteur est clair. Depuis le début jusqu'à la fin, il est question d'autorité. L'autorité. S'il y a un problème que Dieu a avec nous, c'est l'autorité. Et ce n'est pas seulement la relation avec Dieu, l'autorité. On la voit dans la vie sociale. Je peux vous citer plein d'exemples. Chacun peut me donner des exemples. On a tous un problème avec l'autorité. Dans son travail, vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, ou tout simplement des enfants vis-à-vis des parents. Un petit clin d'œil. Mais c'est naturel puisque j'étais aussi enfant. En disant cela, ben on est tous été enfants. Et on avait tous un problème d'autorité avec les parents. Et c'est normal. Parce que j'estime, quand j'étais jeune, j'avais un problème d'autorité avec les parents. Et c'était quelque chose qui m'a construit. Il n'y a pas que du négatif. Hein. Il y a du positif, il y a une confrontation. Donc c'est naturel. Herman, il a un problème d'autorité avec moi à l'école. Il n'a jamais obéi. Combien de fois? Vous voyez? Donc, c'est un problème. En fait, souvent, on l'attaque, mais c'est naturel. Je défends. C'est naturel. C'est la nature humaine. Eh bien, les religions ont ce problème-là avec Dieu aussi. Vous voyez? L'autorité. Alors, notre passage que nous venons de lire, Marc 11, verset 27 au chapitre 2, verset 12, marque un tournant décisif dans l'Évangile. Jésus vient de purifier le temple, on l'a vu. Il a renversé les tables des vendeurs et dénoncé un système religieux devenu stérile. Désormais, le conflit avec les autorités religieuses devient maintenant frontal. Ah bah oui, ils viennent le voir carrément. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, le texte nous dit, avant d'aller dans le vif du sujet. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Voilà ce que nous dit ce passage, il commence par cela. Cette phrase paraît simple. Ils se rendirent à Jérusalem. C'est une histoire, mais pas du tout, parce que souvent on la retrouve. Il va vers Jérusalem. Il compte aller à Jérusalem. Ils se rendirent vers Jérusalem. Cette phrase paraît simple, mais elle porte déjà le poids de la croix. Jérusalem est la ville du temple, le centre religieux d'Israël, mais aussi le lieu où les prophètes ont été rejetés. Jésus avance consciemment, volontairement, vers Jérusalem, vers sa passion. Il sait que les chefs religieux cherchent à le faire mourir. Pourtant, il continue d'avancer, volontairement, consciemment. Jésus marche volontairement vers la croix. Il ne subit pas les événements. Il s'offre lui-même volontairement, consciemment. Puis Marc ajoute, dans notre passage, « Comme Jésus se promenait dans le temple, vous savez, dans la parole de Dieu, rien n'est écrit au hasard, tout a un sens spirituel. Comme Jésus se promenait dans le temple. » Cette image est saisissante. Comme Jésus se promène ici. Comme Jésus est en train de marcher dans les rues. Comme Jésus qu'on ne voit pas, mais spirituellement, il est là. Parce qu'il veut se balader librement, non seulement entre les rangs, mais dans nos cœurs. Il frappe à la porte du cœur, il veut rentrer. Il attend juste qu'on lui ouvre. Jésus se balade, marche dans le temple, comme le Seigneur de la maison. C'est ce qu'il cherche. Et c'est précisément ce qui dérange les autorités religieuses. Car Jésus ne se comporte pas comme un simple rabbin. Pas du tout. Il agit avec autorité divine. Il dit, c'est chez moi, ici. Et c'est ce qu'il veut faire ce matin, comme tous les jours. Alors viennent à lui les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Les sacrificateurs, les scribes et les anciens. C'est dit exprès les trois parce que ça englobe l'autorité politique, l'autorité religieuse et la société. C'est-à-dire tout le monde vient se confronter, ceux qui les représentent viennent se confronter au Seigneur pour lui dire « Je ne veux pas, on ne veut pas que tu sois notre chef. Nous voulons être nos propres chefs. » Cette image de sacrificateur, de scribes et des anciens qui viennent vers Jésus, ça montre la réticence de la nature humaine. Autrement dit, toute l'autorité religieuse, politique d'Israël et leurs questions révèlent le véritable enjeu de notre passage. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Ils veulent savoir quelle autorité fait tout cela. Mais pas pour savoir. Ils veulent l'accaparer. Ils veulent avoir la même autorité que Jésus. Ils le savent, mais ils ne savent pas comment. Alors ils lui posent la question. Le grand thème de notre passage est donc clair. La confrontation entre l'autorité de Jésus-Christ et le refus du cœur humain de se soumettre à Dieu. Les chefs religieux ne cherchent pas sincèrement la vérité, comme je viens de vous le dire. Ils veulent avoir cette autorité. Ils veulent qu'on leur obéisse. Ils veulent qu'on le voie comme des chefs. Leur question est un piège, car reconnaître l'autorité de Jésus impliquerait repentance, humilité, abandon de leur pouvoir et remise en question de leur système religieux. Chose qu'ils ne veulent pas abandonner. Or, leur religion fonctionne sans véritable soumission à Dieu. Jésus répond alors par une autre question. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Et il attend une réponse sincère, claire de leur part. Il leur laisse le choix. Par cette question, Jésus dévoile leur hypocrisie. Les responsables religieux raisonnent surtout par protection de leur statut. Et oui, quand ils réfléchissent, ils disent si on répond ça, ça va être ça, si on répond ça, ça va être ça. Mais en fait, dans tout ça, c'est eux qui sont au centre. Ils raisonnent par peur du peuple, par peur de perdre leur position, par peur des conséquences. Mais ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Leur réponse, une réponse dramatique et hypocrite, nous ne savons. Des hommes spécialistes de la loi, incapables de reconnaître l'œuvre de Dieu devant leurs yeux. Des spécialistes de la loi qui refusent même de reconnaître les évidences par peur de perdre leur autorité au sein du peuple hébreu. Notre récit révèle un problème plus profond. Car le problème est surtout spirituel. Et c'est ce qui nous intéresse. Le cœur humain résiste naturellement à l'autorité de Dieu. C'est la nature humaine. C'est pour ça que quand on regarde le monde, des fois on porte des jugements sur le monde, comme si on s'attendait à autre chose du monde vis-à-vis de Dieu. Il ne peut pas réagir autrement que comme ça. Quelqu'un qui me dit, je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Mais il est honnête, non? Il ne peut pas croire en quelqu'un ou quelque chose qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qui ne rencontre pas le Seigneur dit « Je ne crois pas ». Et d'un seul coup, on monte sur nos chevaux, mais ce n'est pas normal. Mais c'est naturel. La nature humaine ne reconnaît pas son créateur. Par nature, c'est comme ça. C'est quand on rencontre le Seigneur, d'un seul coup, on change. On dit « Ah, j'ai rencontré le Seigneur ». Donc, ayons un peu, je dirais, de compréhension et d'amour et de compassion vis-à-vis du monde, parce que leur réaction est naturelle. Prions pour eux. Prions pour le monde. Le cœur humain, comme je dis, résiste naturellement à l'autorité de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, l'homme veut être son propre maître. Et ça ne change rien, mais c'est aujourd'hui aussi. Je dis ce que je pense, je suis libre. De qui toi pour me parler comme ça? Que ce soit dans la société, dans le travail, ou même au sein de la famille. C'est moi, je suis grand, je fais ce que je veux. Ou dans le couple, souvent le cas, le problème d'autorité. C'est les deux. Chacun veut avoir l'autorité, avoir raison. Voilà pourquoi Jésus dérange autant. Il ne vient pas simplement enseigner, il veut régner. Nous voulons recevoir les enseignements du Seigneur, mais on ne veut pas qu'il règne dans notre vie. Parce qu'il dit régner, c'est que je n'ai plus mon royaume. C'est-à-dire que c'est lui qui décide. Ça veut dire que je suis prêt à abandonner même ce qui est plus cher chez moi. Mais ça, ça veut dire porter sa croix, et c'est très dur. Notre nature est le plus grand obstacle à notre communion. Oh, on aime bien mettre la faute tout de suite sur le diable. Mais vous savez, le premier ennemi de Dieu, c'est nous-mêmes. Oui, c'est nous-mêmes. Notre nature, c'est le premier obstacle ennemi de Dieu. Parce qu'on ne veut pas lâcher. On veut croire en Dieu, mais avec une distance. Quand il dit « je veux venir prendre la place », là, on trouvera toutes les occasions pour en fait le mettre dehors. Notre nature est un obstacle à l'autorité du Seigneur dans nos vies. La nature humaine n'aime pas l'autorité, comme je l'ai dit, au travail, dans la société, dans les familles. Alors Jésus répond par la suite par une parabole que vous connaissez. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir, bâtit une tour. Tout se passe dans la vigne. On est bien d'accord. Tout se passe dans la vigne. C'est tout ça dans la vigne. Cette vigne, bien entendu, quand on lit la Bible, représente Israël, le peuple de Dieu. Mais ça nous concerne nous aussi. Tout dans cette description parle de la bienveillance, du soin de Dieu envers son peuple. La vigne est plantée, la haie protège, la tour surveille et le pressoir attend le fruit. Ça parle de nous aussi. Ça. Dieu avait tout donné à son peuple. La loi, les prophètes, l'alliance, le temple et les promesses. Ça parle à nous aussi. Rien ne manquait, on peut dire aujourd'hui, rien ne manque. Spirituellement, cela révèle aussi la grâce de Dieu envers nos vies. Ça parle de nous. Dieu nous entoure, nous protège, nous appelle et nous donne tout ce qui est nécessaire pour porter du fruit. Il nous appelle à porter du fruit, fruit de la grâce. Mais la vigne a une vocation, comme je viens de le dire, produire du fruit. Le chrétien est appelé à produire du fruit autour de lui. Un chrétien qui ne porte pas de fruit est un problème. Nous n'en avons pas besoin de parler. Notre attitude, notre façon de vivre doit témoigner de notre communion avec le Seigneur. Souvent, des chrétiens ont besoin de parler pour justifier. Ou des fois, quand leur marche ne correspond pas à leur foi, quand ils sont à côté et ce n'est pas un bon témoignage, ils cherchent des justifications par la parole. La Bible nous dit, tais-toi et vis. Nous devons témoigner par notre vie autour de nous. Dieu ne cherche pas des rites. Dieu ne cherche pas des traditions ou une religion externe. Il cherche plutôt la justice, la repentance, l'humilité, l'amour, la paix, la sainteté et un cœur sincère. C'est cela, les fruits. Parmi les détails de la parabole, il y a le pressoir. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, le pressoir ? Le pressoir possède une profondeur spirituelle immense. Et ça me parle tout particulièrement. Le pressoir, c'est le lieu où le raisin est broyé, est écrasé. Pourquoi faire ? Afin de produire du vin. Le fruit doit être brisé pour devenir quelque chose de nouveau, utile, qui nourrit les autres. Et cela annonce déjà la croix. Le pressoir n'est rien d'autre que la croix dans la vigne. Et sans croix, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fruit. Dans le royaume de Dieu, il n'existe pas de véritable fruit sans transformation intérieure. Jésus lui-même passera par ce pressoir spirituel, Gethsémané, la souffrance, l'abandon, puis Golgotha, la mort à soi-même. Jésus a déjà montré le chemin. Pourquoi nous voulons nous écarter de ce chemin? Il n'y en a pas d'autre. C'est celui-là. C'est celui de la mort à soi-même. L'abandon, c'est celui de comprendre la véritable autorité. La croix devient le lieu du brisement de la mort à soi-même, de la métamorphose, de la transformation, du passage à la mort à la vie. C'est le chemin pour porter des fruits. Comme le grain de blé doit mourir pour porter du fruit, le chrétien est appelé à laisser mourir son vieil homme. Ça prend du temps. Et je vais vous rassurer, ça prend tout le temps, toute notre vie, nous porterons, ce pressoir va faire son œuvre en nous. Tant qu'on est dans ce corps, tant qu'on est dans ce monde, eh bien, le pressoir, la croix, fait son œuvre en nous. Un chrétien ne peut que s'améliorer. C'est l'inverse, il y a un problème. Nous avançons toujours à travers cette transformation, cette métamorphose, cette lutte permanente. Et plus on avance, plus le diable fera tout pour qu'on s'arrête et on recule. La croix doit nous accompagner. Le pressoir doit nous accompagner. Mais les responsables religieux veulent la vigne sans le pressoir. La gloire sans la croix. La religion sans repentance. Voilà pourquoi ils rejettent Jésus. Car Jésus vient détruire le faux royaume du moi. Il vient instaurer une nouvelle autorité. Le maître confie la vigne à des vignerons. Ils ne sont pas propriétaires. Vous avez compris? Ils ne sont pas propriétaires, ils ne leur donnent pas. Non, ils sont juste gestionnaires. Le Seigneur confie cette église qu'il y a dans ce monde à des chrétiens comme vous et moi. Et nous avons une responsabilité, porter des fruits et on rendra des comptes. Quand on ira le rejoindre, il va dire maintenant, allez, on fait les comptes. Chacun, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh bien, c'est quelque chose qui me travaille. Je voudrais avoir quelque chose à lui dire. Au moins, l'obéissance. Ils sont simplement gestionnaires, mais progressivement, ils oublient cela. Et c'est le grand drame du cœur humain. On oublie souvent que tout appartient à Dieu. Nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Les serviteurs envoyés par le maître représentent les prophètes rejetés, frappés, humiliés et parfois tués. Pourquoi? Parce qu'ils rappellent au peuple que Dieu réclame du fruit, il veut sa place, il réclame l'autorité. Mais le sommet de la parabole arrive avec cette phrase. Il avait encore un fils bien-aimé. Il est allé jusqu'au bout. Il avait un fils bien-aimé, il l'envoie, il le sacrifie même. Cette expression rappelle directement la voix du Père au baptême de Jésus. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Dieu envoie finalement son propre fils, en espérant peut-être que leur cœur va se transformer, va avoir un peu d'amour, un peu de paix. Ils vont dire « Allez, maintenant on ne va pas quand même tuer le fils. » C'est l'ultime manifestation de l'amour de Dieu. Mais les vignerons disent, voici l'héritier, tuons-le. Et l'héritage sera à nous. Il est encore question d'autorité. La nature humaine. Il est capable d'aller jusqu'à tuer, symboliquement bien entendu, mais pour garder sa place, l'autorité. Voilà le péché dans toute sa profondeur. L'homme ne veut pas seulement désobéir à Dieu. Il va même plus loin. Il veut même prendre la place de Dieu. Et c'est ça le piège de la nature humaine. La désobéissance, elle va même plus loin. Elle veut prendre la place de Dieu, vous vous rendez compte? Et d'ailleurs, c'est le mensonge. Le diable l'a bien compris. Il l'a dit à Adam et Ève. Non. En fait, vous serez comme des dieux. Vous voyez, il connaît cette faiblesse humaine. Donc il a joué là-dessus. Les chefs religieux veulent la vigne sans le propriétaire. Une religion du monde. Le temple sans Dieu. Un système. L'autorité sans le Fils. Aucune vie spirituelle. Aucune autorité. Et spirituellement, l'humanité entière agit souvent ainsi. Nous voulons parfois les bénédictions de Dieu, la paix, le salut, mais sans laisser Jésus régner véritablement dans notre vie. Les vignerons tuent le Fils et le jettent de la vigne. Marc annonce déjà ici la crucifixion du Seigneur Jésus. Jésus sera rejeté hors de Jérusalem, hors du système religieux, condamné par les hommes. C'est un rejet qui conduit à la croix. La croix alors révèle deux réalités immenses. La profondeur du péché humain. Et nous devons en être conscients. C'est le premier ennemi de Dieu. C'est notre nature et son péché qui cherche à avoir la main sur tout. L'autorité, ne rien lâcher. J'ai dit la profondeur du péché humain et la grandeur de l'amour de Dieu. En acceptant volontairement ce rejet, Jésus devient l'agneau sacrifié, le serviteur souffrant, le Fils livré pour notre salut. Notre texte nous montre aussi que ce récit est un message prophétique. À travers ce passage, surtout dans le verset 9, le vrai peuple de Dieu est spirituel. Le peuple de Dieu sera désormais constitué de tous ceux qui reconnaissent Jésus, Christ, comme leur Seigneur et Sauveur, et ils reconnaissent l'autorité du Seigneur dans leur propre vie. Le peuple de Dieu, c'est celui qui se repent, qui croit en lui. Reconnaissant son autorité, et bien évidemment, son peuple porte des fruits. Ce message prophétique est développé par l'apôtre Paul dans ses différentes épîtres, des différentes lettres. Il y montre que le véritable peuple, il parle même de l'Israël de Dieu. Le véritable peuple de Dieu se définit désormais par l'union avec Jésus-Christ. Quel paradoxe bouleversant. Le rejet du Fils de Dieu par les responsables religieux devient le moyen par lequel le salut atteint le monde entier jusqu'à arriver à nous. On parlait tout à l'heure de la pensée de Dieu. La folie de Dieu, je dirais, est une perfection intellectuelle dans notre monde. Vous voyez, les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Jésus cite alors le psaume 118, versets 22-23. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Vous voyez, la logique divine, elle anéantit toutes nos pensées, nos façons de voir. Les bâtisseurs religieux rejettent Jésus. Mais le rejet n'annule pas le plan de Dieu. Au contraire, ce que les hommes rejettent devient le fondement du salut. Et nous en bénéficions aujourd'hui. Ce passage ne parle pas seulement des chefs religieux du temple de Jésus, du temps de Jésus. Ce passage parle aussi de nous. Car ne pouvant fréquenter l'Église, connaître la Bible, servir dans un ministère, avoir une apparence spirituelle, tout en refusant intérieurement que Jésus règne réellement sur notre vie en portant des fruits visibles de notre entourage. Le vrai problème n'est pas l'absence de religion. Le vrai problème est un cœur qui veut garder le contrôle, qui ne veut rien lâcher, qui veut fabriquer son autorité. Mais Jésus ne vient pas seulement améliorer notre vie religieuse. Il vient devenir notre Seigneur. Il veut régner dans notre cœur. Il veut être le chef, celui qui a l'autorité. Voilà pourquoi le chemin du chrétien passe nécessairement par la repentance, la sanctification, la mort à soi-même. C'est tout simplement que la Bible appelle porter sa croix. Toute cette méditation conduit à une question essentielle pour moi. Qui règne réellement dans la vigne de mon cœur? Et chacun de nous, nous devons nous poser la question d'une manière honnête, seul, dans sa chambre, devant le Seigneur. Est-ce que c'est moi qui règne ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Et si je n'arrive pas à avoir la réponse, regardons le témoignage de sa vie. On peut faire le bilan de sa vie et on aura la réponse. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Jésus qui règne en moi? Le Fils bien-aimé, est-ce que c'est moi ou est-ce que Jésus, le Fils bien-aimé, envoyé par le Père? Les chefs religieux ont rejeté le Fils parce qu'ils voulaient garder leur propre royaume. mais le disciple véritable accepte de descendre de son trône intérieur afin de laisser Christ régner en lui. La croix devient alors le lieu où notre orgueil meurt, où notre faux moi est brisé, où le cœur est purifié, où une vie nouvelle peut enfin porter du fruit. Et j'insiste sur porter du fruit autour de soi. Et les premiers des fruits, c'est l'amour et la paix. Le pressoir de la croix est douloureux. Et c'est pourquoi le Seigneur nous met dans des situations pour expérimenter ce que nous venons de lire. Et chacun de nous, le Seigneur utilise quelque chose dans sa vie pour qu'on puisse le mettre devant un miroir et pour qu'il s'examine et vient à genoux devant le Seigneur pour lui laisser la place, qu'il soit lui l'autorité. Et d'un seul coup, on se met à chercher la paix et l'amour. Le pressoir de la croix est douloureux, mais il produit le vin nouveau du royaume. La pierre rejetée par les hommes devient finalement le seul fondement solide pour notre vie. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous donne un cœur humble, un cœur modeste, un cœur vulnérable, un cœur faible pour reconnaître son autorité et le laisser porter des fruits en nous par son esprit et de marcher à sa suite dans le chemin étroit de la croix. Que le Seigneur nous aide. Amen.